Alors, par la grâce, eh bien, vous le savez, vous en avez parlé, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Cette grâce, bien sûr, nous l'avons reçue au baptême, où nous l'avons, si nous l'avions perdue, nous l'avons retrouvée par le sacrement de pénitence. Et toute notre vie ici-bas, bien, doit consister à grandir dans cette grâce, dans cette amitié divine. Parce que notre Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Ça, il le dit, bien sûr, dans son évangile. Et voilà ce que dit à ce sujet le Concile de Trente. Une fois que nous sommes purifiés et devenus amis de Dieu et membres de sa race par la grâce sanctifiante, nous nous renouvelons de jour en jour, comme dit saint Paul, marchant de vertu en vertu. Nous croissons par l'observance des commandements de Dieu et de l'Église dans l'état de justice où nous avons été placés par la grâce de Jésus-Christ. La foi coopère à nos bonnes œuvres et ainsi nous avançons dans la grâce qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Car il est écrit que le juste, c'est-à-dire celui qui possède par la grâce sanctifiante l'amitié de Dieu, devienne toujours plus juste, et encore progresser dans l'état de justice jusqu'à la mort. Et c'est cette augmentation de grâce que l'Église demande quand elle dit à Dieu, au 13e dimanche après la Pentecôte, donnez-nous un accroissement de foi, d'espérance et de charité. Donc, vous voyez, ce concile de Trente, nous indique aussi qu'avec nos œuvres, eh bien, l'exercice des vertus, principalement celui des vertus théologales, est la source de notre progrès, de l'accroissement de notre vie spirituelle, dont la grâce est le principe. Ainsi, si vous voulez, par la grâce, nous sommes enfants de Dieu, et par la vertu surnaturelle infuse, nous pouvons agir en enfants de Dieu, produire des actes qui sont dignes de notre fin surnaturelle. Alors, eh bien, nous allons parler donc de ces vertus théologales. Ces vertus théologales, elles sont au nombre de trois, vous n'avez pas oublié votre catéchisme, la foi, l'espérance et la charité. Donc ce sont des vertus, c'est-à-dire des puissances d'agir surnaturellement, ou si vous préférez, des forces qui nous rendent capables de vivre en enfants de Dieu. Et ainsi qui nous rendent capables de parvenir à la béatitude céleste. Voilà ce que c'est que les vertus de manière générale. Des habitudes surnaturelles, si vous voulez. Et pourquoi sont-elles appelées théologales? Comme le nom l'indique, parce que tout simplement, elles ont Dieu immédiatement pour objet. Par elles, et bien par la foi, nous croyons en Dieu. L'espérance, nous espérons en Dieu. Charité, nous aimons Dieu. Elles sont appelées théologales. Quel est leur rôle en résumé avant de les voir en détail? Eh bien, un auteur spirituel, Tancret, nous dit: leur rôle est de nous unir à Dieu par Jésus-Christ pour nous faire participer à la vie divine. Elles sont donc à la fois unifiantes et transformantes. Ainsi, la foi nous unit à Dieu, vérité infinie, et nous fait entrer en communion avec la pensée divine, puisqu'elle nous fait connaître Dieu comme il s'est révélé lui-même. Par là, elle nous prépare à la vision béatifique. Bon, voilà la foi, on va en reparler. Ensuite, l'espérance nous unit à Dieu, suprême béatitude, et nous le fait aimer comme bon pour nous. Par elle, nous attendons avec fermeté et sécurité le bonheur du ciel, ainsi que les moyens nécessaires pour y arriver. Par elle, nous nous préparons déjà à la pleine possession de l'éternelle béatitude, l'espérance. Enfin, la charité nous unit à Dieu, bonté infinie, nous le fait aimer comme infiniment bon et aimable en soi, et établit entre lui et nous une sainte amitié qui nous fait déjà vivre de sa vie, puisque nous commençons à l'aimer comme il s'aime lui-même. Voilà donc ce rôle résumé de ces trois vertus. Donc, principalement, vraiment nous unir à Dieu. On s'unit à Dieu et elle nous transforme aussi en Dieu. Alors, commençons par la foi. D'une façon générale, quand on parle de foi, qu'est-ce que c'est? C'est l'adhésion de notre intelligence à la parole d'un autre. De manière générale, c'est ce qu'on dit. Hein, quand on a foi en quelqu'un, par exemple, quand un homme intègre ou loyal nous dit une chose, eh bien, nous allons l'admettre parce que nous avons foi en sa parole. Donc, vous voyez, de manière générale, effectivement, quand on dit on a foi en quelqu'un, ça veut dire qu'on adhère, notre intelligence adhère à ce qu'il a dit. Oui, on croit à ce qu'il a dit, tout simplement. Alors évidemment, quand on parle de la foi surnaturelle, eh bien, ça va être l'adhésion de notre intelligence non pas à la parole d'un homme, mais à la parole de Dieu. La foi surnaturelle. On adhère non plus à un homme, mais à ce que Dieu nous dit. Et comme Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, eh bien, la foi va être ainsi un hommage rendu à Dieu, considéré comme vérité suprême, autorité suprême. Vous voyez, c'est très simple. On adhère non plus à un homme, à ce que nous dit un homme, mais on adhère à ce que dit Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu se révèle. Il ne peut pas se tromper ni me tromper. Eh bien, j'adhère à ce qu'il me dit. Ainsi, bien sûr, il y a plusieurs définitions, mais on peut trouver celle-ci. La foi est donc une vertu théologale qui incline notre intelligence sous l'influence de la volonté et de la grâce à donner un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. On va reprendre tous ces points. Cette vertu qui incline notre intelligence sous l'influence de la volonté et de la grâce a donné un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. Donc bien sûr, ce qu'il faut voir déjà, c'est que la foi est avant tout un acte de notre intelligence, puisqu'il s'agit de connaître une vérité. Vous savez que notre intelligence est faite pour le vrai. L'objet de notre intelligence est le vrai. Bon, ça se voit quand on, rappelez-vous vos cours à l'école, hein, quand nous, bon, étudiants dans n'importe quelle matière, mais on cherche la vérité. Bon, prenez l'exemple tout simplement où nous avons sué sang et eau sur des problèmes mathématiques, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de trouver la solution. Et oui, telle formule, je sais pas quoi, bref, la baignoire percée qui fuit, et puis l'eau qui s'évapore, etc. Combien de temps pour que la baignoire soit pleine? Enfin, vous voyez, ces délices que nous avons eues. Ben, on n'est pas satisfait tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Bon, certains se découragent avant. Mais bref. Et puis, dès qu'on a trouvé la solution, ah, ça va mieux. Eh oui. Ben, il faut 36 heures et 5 secondes et 10 centièmes de seconde pour qu'elle se remplisse. Bon. Voilà. Et alors, on est content. Bon, ça ne nous fait rien, mais on est content. Bref, donc notre intelligence est faite pour le vrai. Donc c'est vrai, c'est avant tout la foi un acte d'intelligence. Mais, donc, devant toute vérité qui n'est pas intrinsèquement évidente, eh bien, notre adhésion, évidemment, ne va pas se faire aussi évidemment, sans l'influence de la volonté. La volonté va commander à notre intelligence, eh bien, d'étudier les raisons de croire. Et quand celles-ci sont convaincantes, eh bien, notre volonté va commander à l'intelligence de donner son assentiment. Mais ici, comme il s'agit d'un acte surnaturel, évidemment, la grâce doit intervenir pour éclairer notre intelligence et pour aider notre volonté. C'est ainsi que la foi donc devient un acte libre, surnaturel et méritoire. Bien sûr, il faut la grâce. Donc, celui qui n'a pas la grâce de Dieu n'a pas la foi, évidemment. D'ailleurs, vous pouvez peut-être rencontrer des personnes qui n'ont pas la foi, qui disent: oui, j'ai étudié la religion catholique, c'est logique, c'est parfaitement logique, c'est vrai, mais il manque quelque chose, je ne crois pas. Et là, parce qu'il manque la grâce. Ce qui veut dire aussi toujours que la foi, effectivement, est un don de Dieu. Donc, vous voyez, il nous faut la grâce, autrement. Mais avec la grâce, effectivement, ben notre intelligence va effectivement adhérer à cette révélation de Dieu. Et puis notre volonté va se porter aussi, va pousser notre intelligence à adhérer à Dieu. Donc vraiment, d'abord, essentiellement, un acte d'intelligence. Ensuite, l'objet matériel de la foi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout l'ensemble des vérités révélées que notre raison ne peut pas découvrir. Ou alors, c'est ces vérités qu'elle peut connaître, mais qu'elle connaît mieux par la foi. Donc, toutes ces vérités révélées par Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'objet matériel de notre foi. Et le motif ? Le motif de notre foi, qu'est-ce qui nous pousse à croire? Eh bien, c'est l'autorité divine. L'autorité divine qui est manifestée par la révélation. Oui, c'est Dieu qui révèle, alors j'adhère. Et cette autorité de Dieu, encore une fois, on sait, Dieu s'est révélé. Il nous a parlé. Donc, c'est quelque chose d'objectif. Et ça, peut-être aujourd'hui, il faut bien insister sur le caractère objectif, ce n'est pas quelque chose de subjectif. Ah ben c'est moi qui crois ça parce que c'est moi qui le veux, et puis ça revient du plus profond de moi-même. C'est un sentiment religieux, alors j'adhère à ce sentiment, et donc j'ai la foi. Ah non, ça c'est la définition moderniste de la foi, précisément condamnée par Saint Pie X. Mais malheureusement que nous retrouvons aujourd'hui. Ça c'est sûr que... Dans cette crise de l'Église, c'est un peu le sentiment de la foi aujourd'hui. Eh bien, chacun a sa foi, c'est l'expression de mes sentiments. Non. Donc non, c'est quelque chose d'objectif. C'est la révélation de Dieu et quelque chose d'objectif qui est en dehors de moi. Oui, Dieu s'est révélé. Et on en a les preuves. Bon, bien sûr, ça, après, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé. Bon, Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Et puis bien sûr, surtout notre Seigneur, Fils de Dieu, qui est venu parler, qui a dit « Je suis Dieu », qui l'a prouvé. C'est toute l'apologétique, ensuite, qui nous montre la réalité de cette révélation. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose vraiment d'objectif, et bien insister dessus. Je crois parce que c'est Dieu qui l'a révélé, et c'est quelque chose, encore une fois, d'extérieur à moi. Et puis, bien sûr, cette vérité révélée de Dieu est évidemment souvent proposée par l'Église. L'Église qui a été instituée par Jésus-Christ comme interprète officiel de sa doctrine. C'est, comme nous le disons, dans l'acte de foi, révélé par Dieu et enseigné par l'Église. Et donc, si vous voulez, il n'y a rien de plus ferme donc, que l'adhésion de foi. Il n'y a rien de plus ferme. Parce que nous avons pleine confiance, encore une fois, dans l'autorité divine, plus qu'en notre propre lumière. Parce qu'il y a des vérités de foi, eh bien, nous les croyons, nous mourrons pour ça, mais nous aurons du mal à les expliquer. Ne serait-ce par exemple que la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, si on commence à parler de la Sainte Trinité, à approfondir le mystère de la Sainte Trinité, je pense qu'on va vite caler. Parce que trois personnes, un seul Dieu en trois personnes égale et distincte, bon, vous ne pouvez pas me prouver que c'est absurde. Non, c'est pas absurde. Mais ensuite, à exprimer exactement qu'est-ce que ça veut dire et comment ça... Comment le Fils procède du Père, et du Père et du Fils, etc. Se procède le Saint-Esprit, le Fils qui est engendré du Père, etc. Bien, on va vite caler. Mais néanmoins, nous sommes prêts à mourir pour ça, pour cette vérité. Parce qu'effectivement, Dieu nous l'a révélé. Alors je crois précisément, je crois. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, si vous voulez, cette adhésion de notre foi, il n'y a rien de plus ferme. Parce qu'encore une fois, on s'appuie sur Dieu. Alors, est-ce que cette foi est nécessaire ? Évidemment, elle est absolument nécessaire. Vertu absolument nécessaire. Personne, en effet, ne peut se sauver sans la grâce sanctifiante. Or, la grâce sanctifiante n'existe pas sans la foi habituelle. Et saint Paul le dit bien dans son Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et dans l'Évangile, dans la vie de notre Seigneur, nous voyons qu'effectivement, notre Seigneur réclame d'abord la foi de ceux qui s'adressent à lui. Bon, vous avez de multiples exemples, il suffit de lire les Évangiles. Par exemple, « Croyez-vous que je puisse vous guérir ?»« Oui, Seigneur. » Alors il lui touche les yeux. Eh bien, qu'il soit fait selon votre foi. Croyez-vous que je puisse vous guérir ? Oui. Alors, eh bien, qu'il soit fait selon votre foi. Ça revient dans tous les miracles. Donc notre Seigneur fait de la foi la condition indispensable de ses miracles, même à ses amis. Rappelez-vous quand il arrive à Béthanie, bon, peu de temps avant sa passion, quand on lui annonçait que son ami Lazare était mort. Alors, il arrive au bout de 3 jours, 4 jours même, et puis Marthe vient le voir, et bien notre Seigneur lui demande, bien, est-ce que tu crois? Eh bien, Marthe lui répond, oui, je crois que vous êtes la résurrection et la vie. Et alors, après, notre Seigneur va ressusciter Lazare. Donc, il demande un acte de foi avant ce grand miracle, la résurrection de Lazare. Et on peut même dire que la foi est si agréable à Jésus qu'elle finit cette fois par obtenir de lui même ce qui n'était pas dans ses intentions premières de donner. Alors là, vous avez le grand épisode qu'on peut proposer de différentes manières, mais au moins on voit la foi, c'est l'épisode de la Cananéenne, épisode fameux de la Cananéenne. Alors vous le trouverez dans l'Évangile, c'est Saint Matthieu, chapitre 15, verset 22. Alors là, c'est très instructif, parce qu'on peut voir bien sûr la foi, on peut voir la confiance, on peut voir la persévérance. On peut voir vraiment beaucoup de vertus. Alors, voyons-y la foi. Voilà comment on peut voir cet épisode. Voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Donc, la femme vient vers notre Seigneur. Donc là, notre Seigneur est tout au nord, hein, dans les régions de Tyr et Sidon. Et donc, cette femme vient, une païenne, pour demander la guérison de sa fille. Donc, elle a certainement déjà entendu parler de ce Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne répondit pas un mot. Ça commence bien. Pas un mot. Donc elle demande, aie pitié de moi, notre Seigneur, il continue, il avance, il ne dit rien. Bien. Bon, peut-être déjà, première chose, on a pu se dire, bah, celui-là, il n'est pas très poli, donc je pars, je m'en vais. Ses disciples s'approchant le priaient. Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. Là, ça a été un peu plus autre chose. Alors, imaginez la femme, première fois, notre Seigneur ne dit rien. Bon, vous savez que de temps en temps, les femmes, ça peut être têtu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle voit qu'elle répond rien. Bon, elle fait peut-être le tour hein, de notre Seigneur, parce que notre Seigneur était certainement protégé par ses apôtres, hein, les gardes rapprochés. Alors, il passe derrière, et puis elle, eh bien, elle ne se démonte pas. Seigneur, ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié de moi, ma fille, guérissez ma fille, guérissez ma fille. Notre Seigneur, imperturbable, il continue à avancer. Mais il y en a d'autres qui sont moins patients. Donc les apôtres, ah Seigneur, bah, alors vous les imaginez, bon allez, qu'est-ce qui y va? Allez Pierre, vas-y, toi t'es le chef, allez vas-y, va dire quelque chose. Enfin, on n'en peut plus, quoi. Elle nous crie dans les oreilles, vas-y, fais quelque chose. Ah oui, alors bon, Pierre, tout penaud, Seigneur, faites-lui grâce, parce qu'elle nous poursuit de ses cris. On n'en peut plus, je veux dire, on ne peut plus prier, elle crie. Bien, alors que fait notre Seigneur? À quoi il répondit? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là aussi, deuxième tentative, pas de chance. Vous, vous êtes païenne, tu n'es qu'une païenne. Moi, je suis d'abord venu pour les Juifs. Alors, en gros, eh bien, tu peux partir, vas-y, pars. Moi, je ne suis pas venu pour toi. Deuxième cas, elle aurait pu se dire, bon, allez, bon, bah, ce n'est pas mon jour de chance, je repars, je rentre à la maison. Non. Alors du coup, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Étant arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant, Seigneur, venez à mon secours. Alors elle ne se démonte pas. Donc elle revient, alors là elle vient devant. Et puis là elle dit comme ça, je me prosterne, donc là plus de possibilité de partir, notre Seigneur ou est obligé de marcher sur elle, ou là il est coincé. Bon, elle se prosterne. Bien, Seigneur, venez à mon secours. Notre Seigneur ne se laisse pas démonter. Il lui répondit, il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors là, elle aurait pu dire, dis donc, il me traite de chien maintenant, il m'insulte, Hein, il m'insulte. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Je pars, non, je suis furieux, je vais porter plainte, hein, etc. Comment? Parce que vous me traitez de chien, etc. Parce que je suis une païenne, donc je m'informe. Ah là-haut, la LICRA, je porte plainte pour racisme, etc. Bon. Eh bien, elle ne se laisse pas démonter. Qu'est-ce qu'elle répond? Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, notre Seigneur reste un peu, sans doute un peu, bon, pas enfin, estomaqué, c'est pas le cas, mais il admire sa foi. Eh oui, même les petits chiens, ben effectivement, je vous demande pas grand-chose, je vous demande une petite miette. Je comprends, vous n'êtes pas venu pour nous, les païens, pas pour maintenant. Vous êtes d'abord venu pour les juifs, d'accord, mais donnez-moi au moins une petite miette. Eh bien là, notre Seigneur y craque. Alors Jésus répondit, Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Un merveilleux épisode, si vous voulez. Ah oui, trois tentatives. Trois tentatives. Eh bien, ça montre qu'elle avait une foi forte. Foi forte. Et puis, elle ne s'est pas découragée. Persévérance. Alors, pour nous, évidemment, modèle de foi, mais aussi modèle de persévérance. Qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut tout de suite. Eh bien, faisons comme la Cananéenne. Ainsi donc, la foi est la première vertu que notre Seigneur réclame de ceux qui s'approchent de lui. Est-ce que la foi seule suffit? Ça, c'est Luther. Bien sûr, les protestants, vous avez reconnu les procédures. Ben, la foi seule, sans les œuvres, ça suffit. Il faut que la foi. Alors voilà ce que répond, par exemple, bon, rapidement, hein, Dom Marmion, dans Crise vie de l'âme, toujours. Est-ce que la foi seule suffit? Non. Les sacrements et l'observation des commandements sont aussi nécessaires, mais un homme qui ne croit pas en Jésus-Christ n'a que faire de ses commandements et de ses sacrements. D'autre part, c'est parce que nous croyons à la divinité de Jésus que nous observons ses préceptes et que nous nous approchons des sacrements. La foi est donc la base de toute notre vie surnaturelle. Bien sûr. Donc, rôle aussi sanctificateur, bien sûr, de la foi. Elle est la base de notre vie surnaturelle. Le Concile de Trente, d'ailleurs, le dit, elle est le commencement, le fondement et la racine de la justification et de la sanctification. Donc, base de notre vie surnaturelle. Sans la foi, vraiment, on n'a pas de vie surnaturelle. Commencement, parce que c'est par là que Dieu nous initie à sa vie. Il se connaît lui-même. Et il nous initie donc à sa propre vie. Et la foi aussi nous unit à Dieu, bien sûr. Elle nous fait communier à sa pensée, à sa propre vie, que nous connaissons ainsi par la révélation. Donc la foi est vraiment une source de lumière pour l'intelligence, et en même temps une force et une consolation pour notre volonté, et un principe aussi de mérite pour l'âme tout entière. Parce qu'évidemment, parfois, il y a des vérités obscures. Alors, sachons pratiquer, bien sûr, cette vertu de foi. D'abord, sachons remercier Dieu de cette grâce. Vraiment, il faut penser, hein, nous l'avons reçue, bien sûr, sans mérite de notre part. Donc, remercions Dieu de ce grand don, un fondement de tous les autres. Ensuite, sachons faire des actes de foi. Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi, hein, comme les apôtres. Hein, c'est ce qu'ils disaient à notre Seigneur. Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. Hein, c'est la prière. Prions pour augmenter que Dieu augmente notre foi. Prions, mais aussi joignons l'étude ou la lecture des livres qui vont alimenter notre foi. Hein, ne nous laissons pas, ne gardons pas une foi de charbonnier. Bon, elle est bonne pour le charbonnier, hein, c'est sûr. Mais elle ne suffit pas. Ensuite, il faut l'entretenir, la développer. Et puis ensuite, vis-à-vis de notre foi, eh bien, évitons tout ce qui pourrait troubler notre foi. Les lectures imprudentes, ou alors, bien sûr, tous les spectacles aujourd'hui qui peuvent troubler la foi. On peut avoir des objections auxquelles on ne sait peut-être pas répondre. Je me rappelle en campagne. À la campagne, un curé de paroisse Eh bien, lui, il défendait absolument à ses paroissiens, à ses fidèles, de parler aux témoins de Jéhovah. Il disait, non, parce que si vous parlez aux témoins de Jéhovah, eh bien, votre foi n'est pas assez forte et vous allez vous faire embrigader. Parce que pour répondre aux témoins de Jéhovah, ben, il faut effectivement, disons, il peut vous troubler, en tout cas, par des raisonnements faux à partir de la Sainte Écriture, à partir de la Bible. Quand vous avez quelques connaissances, bon, pour nous prêtres, à la limite, c'est relativement intéressant de discuter avec eux, mais on voit les pièges, parce que c'est des gens qui apprennent par cœur, si vous voulez, des passages. Et quand vous les prenez en défaut, eh bien, ils vont sauter tout de suite sur un autre passage. Donc, ils ont l'art de la dialectique également. Bon, je dis ça, je me rappelle, bon, c'était au début de mon ministère à Brest. Donc, à Brest, deux fois, d'ailleurs, à l'époque, on avait un appartement rue Lyon, à Brest, deux fois, ils sont venus. Donc, une fois, et je me rappelle, ils sonnent, ils ouvrent. Ah, une soutane. Là, ils ne s'attendaient pas à ça. Ah bon, bah oui, très bien. Bon, ils ont quand même voulu commencer à discuter. Bah, c'est très bien, bah, venez, discutons. C'est là où c'est intéressant, enfin, pour nous, parce qu'on voit enfin, c'est faux, si vous voulez. D'abord, il faut prendre notre Bible qui a les bonnes traductions, parce que souvent, leurs traductions ne sont pas bonnes. Ils suppriment des passages qu'ils ne veulent pas. Ensuite, ils ont l'art de la dialectique, donc non, enfin, ils sont pas honnêtes, quoi, si vous voulez. Et là-dessus, ce qu'ils ne supportent pas, par exemple, et là, on les cloue, bien sûr, ils ne supportent pas que Jésus est Dieu. Ça, non, là-dessus. Alors, vous avez beau leur citer, bah, d'expliquer le prologue de l'évangile de Saint Jean, hein, qu'on lit à chaque fin de messe, bien, c'est tellement clair. Mais là, non, non, ah non, c'est la parole. Enfin, bref, ils s'embellifèrent complètement. Puis, d'autres sont revenus une autre fois. Enfin, bref, c'est pareil. Mais ce qui est triste, par contre, à chaque fois, je demande, mais alors, vous étiez quoi? Vous étiez catholique avant? Bien, tous m'ont dit oui, on était catholique. Alors, sauf une, parce qu'ils viennent toujours à deux. Et alors, je pense que la deuxième fois, ils ont dû dire, oh, le soleil, il est coriace. Donc, ils sont venus avec quelqu'un un peu plus âgé, disons qu'il devait avoir une soixantaine d'années, puis une jeune fille qui devait avoir, je sais pas, 18-20 ans. Alors, lui, oui, était catholique. Par contre, elle, non. Elle, cette jeune fille, avait toujours été témoin de Jéhovah. Elle était née comme ça, quoi. Mais autrement, les autres aussi, l'autre équipe d'avant, non, ils étaient tous catholiques. C'est triste. Hein. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui ont perdu la foi. Donc, attention, nous aussi, de ne pas nous mettre en occasion de perdre cette foi. Et puis, évitons aussi, bien sûr, l'orgueil intellectuel, si vous voulez, qui veut tout rabaisser à son niveau, hein, qui n'accepte que ce qu'il comprend. Donc, évitons cet orgueil intellectuel. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, oui, c'est vrai. Ben, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, tout simplement. Et puis, peut-être, ça peut nous arriver, hein, d'avoir des tentations contre la foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand c'est des tentations qui sont vagues, par exemple, oh, qui sait si c'est vrai tout cela, etc. Est-ce que c'est vrai? De manière très vague. Alors là, c'est la tentation, il faut les chasser comme des mouches. Alors là, ça, c'est des mouches, allez, baf. On fait un acte de foi, mon Dieu, je crois tout ce que vous nous avez dit. Bien. Ou alors, si c'est une tentation qui se précise, qui est sur un point précis, particulier. Alors là, c'est pareil, là, ce qu'il faut faire, c'est, bon, d'abord, sous la tentation, ne pas discuter. Non, Seigneur, je crois. Comme faisait un jour, ça c'est dans Saint Vincent de Paul, qui avait voulu, bon, qu'il y avait un de ses pénitent, qui avait de grandes tentations contre la foi. Et lui, il avait fait comme prière, bah, Seigneur, délivrez-le de ses tentations et permettez-moi que je les aie. Alors là, il a été exaucé. Donc, il s'est pris toutes les tentations, mais de violentes tentations contre la foi. Alors lui, Saint Vincent de Paul, ne s'est pas démonté. Il a écrit le credo sur un papier, il l'a mis dans sa poche intérieure, et à chaque fois que les tentations arrivaient, je crois. Tout simplement, je crois. Alors c'est ce qu'il faut faire dans le moment de la tentation, et puis ensuite après, une fois que c'est un peu plus calme, dans ce cas-là, effectivement, il faut étudier. Bon, pourquoi pas, il y a tel point, je ne comprends plus. Bon, ben, je vais voir dans mon catéchisme, dans un livre, ou alors je demande à un prêtre ce qu'il en est. Et puis ensuite, bien sûr, vivons de cet esprit de foi. Donc le juste vit de la foi, donc aimons ensuite à bien relire les évangiles, par exemple, et à tout voir sous un regard de foi. Ensuite, l'espérance, vertu d'espérance. Bon. Vertu d'espérance, vertu théologale qui nous fait désirer Dieu comme notre bien suprême. Et donc, il nous fait attendre avec une ferme confiance, à cause de la bonté et de la puissance divine, la béatitude éternelle. Donc, on désire Dieu, vraiment, c'est notre bien suprême, parce qu'il est bon. Et en même temps, on sait qu'il nous donnera les moyens de parvenir jusqu'à lui. Donc là aussi, on espère Dieu lui-même, en tant qu'il est notre béatitude. Mais comme on ne peut pas l'atteindre par nous-mêmes, eh bien on compte que Dieu va nous donner les moyens pour arriver à lui. Donc moyens pour éviter le péché, vaincre les tentations, etc. Et le motif de notre espérance, c'est la bonté de Dieu à notre égard. Dieu est bon et il nous fait, et on le désire comme notre bonheur. En même temps, ce motif, c'est la bonté de Dieu et sa puissance. Non, qui peut nous arracher aux biens de la terre pour les porter vers le ciel, qui peut nous porter au ciel. Donc bonté et à la fois puissance de Dieu qui peut nous donner les moyens d'aller au ciel. Alors, rôle aussi important de l'espérance dans notre sanctification, parce qu'elle nous unit à Dieu en nous détachant des biens terrestres. Donc, nous sommes bien sûr toujours attirés par les plaisirs sensibles, les satisfactions de notre orgueil, vanité, fascination de la richesse, les joies naturelles, etc. Eh bien, l'espérance nous détache de tout cela, de tous ces biens terrestres, pour aller vers Dieu. Et puis, cette espérance aussi donne bien sûr de l'efficacité à nos prières. Elle nous obtient aussi par là même les grâces dont nous avons besoin. Se prier sans espérance, alors c'est le meilleur moyen de ne pas être exaucé. C'est sûr. Si vous priez au bon mon Dieu, je vous demande ça, de toute façon je suis sûr de ne pas l'avoir. Ça, c'est clair, vous ne l'aurez pas. Donc non, au contraire, prier avec espérance, eh bien nos prières deviennent efficaces. Et puis aussi, on voit bien l'efficacité de la confiance. Bon, je viens de vous parler de cet épisode de la Cananéenne. Là aussi, bien sûr, on voit sa foi, mais sa confiance aussi, c'est évident. Comment elle persévère à demander, avec quelle confiance. Donc, sachons, bien sûr, agir toujours avec cette confiance, cette espérance. Et puis, l'espérance aussi est un principe d'activité féconde. Nous donne de saints désirs, désir d'être unis au bon Dieu. Elle augmente nos énergies par la perspective d'une récompense. Aussi, bien sûr, à se dire que le bon Dieu, tous nos efforts, toutes nos souffrances, nos pénitences, eh bien Dieu nous en récompensera. Donc ça nous augmente nos énergies à être généreux. Donc, par rapport à l'espérance, il y a deux écueils à éviter. Comme toujours, on peut pécher. Oui, disons. Non, c'est pas tout à fait propre, mais disons. Oui, deux écueils, c'est plutôt le terme exact. Évitons la présomption. Donc, présomption, bon, on en a déjà parlé, ça consiste à atteindre Dieu sans demander les grâces nécessaires pour y arriver, sans vouloir prendre les moyens que Dieu nous donne. Donc ça peut être la présomption, par exemple, on présume de la bonté divine. Ah, Dieu est trop bon pour me damner. Alors on néglige ses commandements. Ah non, de toute façon, Dieu est tellement bon, il ne peut pas me damner. Il m'aime tellement qu'il ne peut pas me damner. Donc à partir de ça, eh bien, les commandements de Dieu, on les laisse de côté. Donc on se laisse aller. Ben là, évidemment, c'est un défaut, c'est ce qu'on appelle la présomption. Parce que si Dieu est bon, c'est vrai, mais il est aussi juste. Juste et saint, et il est l'iniquité. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et en même temps pécher, c'est contradictoire. Donc attention, dire aujourd'hui, c'est ce qu'on, malheureusement, on dit toujours, ah non, Dieu, il est bon, il est bon. Alors, on fait un espèce de Dieu, quelqu'un de bonasse, ben, c'est pas ça, Dieu, non. Il est bon, oui, c'est vrai, miséricordieux, ça on en parle, mais il est aussi juste. Et puis l'autre écueil, c'est le découragement. Découragement qui peut pousser au désespoir. Souvent, on peut être tenté, vaincu dans la lutte, on peut être torturé par des scrupules. Alors quand c'est comme ça, on se décourage. On s'imagine qu'on ne pourra jamais se changer, se réformer. Et ainsi, on commence à désespérer du salut. Alors ça, non, ça c'est effectivement disposition dangereuse. Non, au contraire, là par contre, surtout un peu les scrupuleux, c'est ça, il faut surtout s'abandonner avec confiance à la grâce de Dieu. Dieu est tout puissant, il est bon, il m'aime, etc. Revenir à ça. Donc les deux écueils à éviter, présomption et désespoir. Et ainsi, l'espérance va nous faire vivre habituellement en esprit dans le ciel et pour le ciel. Ensuite, troisième vertu théologale, bien sûr, la charité. La plus grande des trois, parce que c'est celle qui va demeurer dans l'éternité. Dans le ciel, nous n'aurons plus la foi. Ben non, puisque nous aurons la vision. On verra Dieu. Donc évidemment, plus besoin de croire dans l'obscurité telle que nous le voyons aujourd'hui. Non, donc la foi disparaît. Puis l'espérance aussi, il n'y a plus d'espérance dans le ciel. Ben, puisqu'on possède l'objet espéré sur cette terre. Donc plus besoin d'espérer puisque nous avons Dieu. Donc en revanche, eh bien, cette charité existera, nous aimerons Dieu et nous aimerons eh bien, les élus, ceux qui seront au ciel aussi. Donc la charité, elle, va demeurer. Alors charité, vertu théologale, qui nous fait aimer Dieu de la façon qu'il s'aime, par-dessus toute chose, pour lui-même et le prochain pour l'amour de Dieu. Bon, ça vous connaissez, au moins quand on le récite. L'acte de charité, donc vertu qui nous fait aimer Dieu de la façon qu'il s'aime par-dessus toute chose et pour lui-même, et qui nous fait aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Donc cette vertu a un double objet, si vous voulez, Dieu et le prochain. Mais en réalité, ces deux objets n'en font qu'un, parce que nous n'aimons les créatures qu'en tant qu'elles sont une expression, un reflet des perfections divines. On n'aime pas pour elles-mêmes, on aime les créatures parce que justement elles sont un reflet de cette perfection divine. C'est donc Dieu que nous aimons dans notre prochain. Ou alors, comme dit saint Thomas aussi, nous aimons le prochain parce que Dieu est en lui, ou du moins pour qu'il soit en lui. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule et même vertu de charité. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas séparer Dieu et le prochain. Ce n'est pas possible. Donc l'amour de Dieu, d'abord, eh bien, ce précepte de la charité est très entendu. En soi, il n'y a pas de limite. Vous connaissez la phrase célèbre, « La mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure. » Ça, c'est sûr. La mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure. Donc il nous oblige à tendre sans cesse vers la perfection, ce précepte de la charité. Et donc notre charité doit toujours grandir jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort. Alors la charité, bien sûr, en soi, la plus excellente et la plus sanctifiante des vertus. Saint Paul le dit très bien, et ça vous pouvez le lire, relire, méditer, même pendant cette retraite. C'est le fameux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens de Saint Paul, chapitre 13. Et l'Église, d'ailleurs, nous fait lire cette épître, ce passage. Il me semble que c'est le dimanche de la quinquagésime, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est le dimanche de la quinquagésime, donc le dimanche juste avant le carême. C'est très bien, parce que justement, ça permet ensuite de passer un bon carême. Parce que tout doit être centré sur cette charité. Bon, voici quelques passages de cette épître. enfin de ce chapitre, pardon. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi transportée des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Ensuite, il énumère toutes les qualités de la charité. La charité est longanime, elle est serviable, elle n'est pas envieuse, etc. Elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne s'irrite pas, enfin bref. La charité ne passe jamais, etc. Car nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Donc relisez vraiment ce beau passage. Donc cette charité, bien sûr, nous unit à Dieu, elle est unifiante, on s'unit à Dieu parce qu'on aime Dieu tout simplement, on pense à lui, on essaie de se soumettre à sa volonté. Donc notre cœur suborne toutes nos affections à l'amour divin. Toutes nos énergies sont au service de Dieu. Donc vraiment, cette charité nous unit à Dieu. Et en même temps, le fait d'être unis à Dieu, eh bien, nous nous transformons. Elle se transforme en Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour nous fait sortir de nous-mêmes et nous élève jusqu'à Dieu. Pour nous porter, bien imiter les perfections divines. Tout ce qu'on vous a déjà parlé. Parce qu'en effet, on veut toujours ressembler à celui qu'on aime. C'est une grande loi. Toujours ressembler à celui qu'on aime. Parce qu'on l'estime comme un modèle. Et donc ainsi, on veut pénétrer toujours davantage dans l'intimité de Dieu. Et puis les effets de cette charité, de cet amour de Dieu, nous donne cette union Dieu, nous fait mieux comprendre et goûter Dieu. Comprendre et goûter Dieu, hein, les choses divines. Et en même temps, elle décuple nos énergies. Comme dit la Sainte Écriture, l'amour est fort comme la mort. Donc qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, comme nous dit Saint Paul ? Et cet amour de Dieu, nous donne une grande joie, une dilatation de l'âme. Et un des fruits, c'est la paix profonde. Quand on aime Dieu, quand on fait tout pour Dieu, vous avez un fruit qui en découle, c'est la paix. Ne serait-ce que, par exemple, après une bonne confession, il y a la paix. Parce que justement, on a regretté nos péchés, on les a confessés, on a obtenu le pardon divin, alors c'est la paix de l'âme. Vous avez là aussi, je vous laisserai le lire par vous-même, l'imitation de Jésus-Christ. Livre 3, chapitre 5. Des merveilleux effets de l'amour divin. Il est un peu long, donc je vous laisse lire, j'ai plus tellement le temps. Donc lisez-le. C'est un magnifique chapitre. L'amour est prompt, sincère, pieux, doux, prudent, fort, patient, fidèle, constant, magnanime. Il ne se recherche jamais, car dès qu'on commence à se rechercher soi-même, à l'instant, on cesse d'aimer. L'amour est circonspect, humble et droit, sans mollesse, sans légèreté, ne s'occupe point de choses vaines, il est sobre, chaste, ferme, tranquille, et toujours attentif à veiller sur ses sens. Qui n'est pas prêt à tout souffrir et à s'abandonner entièrement à la volonté de son bien-aimé, ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Etc. Donc, n'hésitez pas à lire ce chapitre, les merveilleux effets de l'amour divin. Alors, comment pratiquer cet amour de Dieu ? Tout simplement, ça se résume en une chose très simple, éviter le péché. Tout simplement, éviter le péché. Celui qui m'aime, nous dit notre Seigneur, c'est celui qui pratique mes commandements. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Vous aimez Dieu ? Vous pratiquez les commandements de Dieu. C'est une preuve de votre amour de Dieu que de pratiquer les commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. Ça, c'est dans le. Je n'ai pas la référence exemple, mais c'est le discours après la scène. Donc, dans Saint Jean, chapitre 14 et suivant. 14, 15, 16. C'est magnifique aussi le discours. que vous pouvez lire dans saint Jean. Et puis ayons aussi, bien sûr, un amour de compassion, par exemple, avec notre Seigneur souffrant. Quand on médite sur cette passion de notre Seigneur, là aussi, ça ne peut que nous pousser à l'amour de Dieu, c'est évident. Et puis essayons d'accomplir aussi toujours cette volonté de Dieu, preuve de notre amour de Dieu, fiat. Fiat, voluntas tua. Que votre volonté soit faite. Ensuite, amour de Dieu, amour du prochain. Donc c'est la charité fraternelle, comme on l'a dit, c'est une vertu théologale. Hein, parce que c'est Dieu qu'on aime dans le prochain. Hein, ou alors, si vous voulez, on aime le prochain pour Dieu. Si nous aimions le prochain, j'allais dire, uniquement pour lui-même, ou à cause des services qu'il peut nous rendre, eh bien ça ne serait pas de la charité. Non. C'est pour ça, j'allais dire, par exemple, la philanthropie. Toutes ces, je veux dire, en soi, j'allais dire, bon, toutes ces organisations qui vont aider les gens, bon, en soi, c'est bien, si vous voulez, d'aller aider les pauvres, etc. Le problème, c'est que souvent, ce n'est pas fait pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que on doit voir non seulement le bien du corps, donc aider les pauvres, les soulager, ça, je veux dire, c'est une œuvre de charité, c'est évident, mais on doit voir aussi le bien de leur âme. Donc, il ne faut pas le négliger. Vous voyez, si on exclut Dieu, dans ce cas-là, ce n'est plus de la charité, c'est de la philanthropie. C'est plus de la charité. Donc, c'est Dieu vraiment qu'il faut voir dans notre prochain, parce que Dieu se manifeste par les dons naturels. Les dons qu'on voit dans notre prochain, ben, ce sont des dons de Dieu. C'est une participation à l'être et aux attributs divins. Donc aussi, vous voyez, c'est une bonne façon, entre parenthèses, de lutter contre la jalousie. Quand on est pris par la jalousie sur telle ou telle, envers telle ou telle personne, eh bien, disons-nous, les dons, les qualités que nous voyons dans l'autre personne et dont nous sommes jaloux, jalouses, eh bien, précisément, disons-nous, ah non, attention, ces qualités que nous voyons dans cette personne, ça vient de Dieu. Le bien vient de Dieu. Donc ça nous permet de résister à toutes ces pensées, ces jalousies, etc. Donc tout ce qu'on voit de bien dans le prochain et tous ces dons naturels qu'on voit dans le prochain, ben, c'est une participation à la nature, à la vie divine. Donc non, au contraire. Hein, voyons le Dieu vraiment dans notre prochain. Et puis nous verrons dans notre prochain bien des enfants de Dieu, des membres de Jésus-Christ, qui sont appelés aussi au royaume céleste, comme nous-mêmes. Vous voyez, donc c'est dans cette perspective qu'il faut voir notre prochain. Là aussi, n'hésitez pas, je vous donne des références de lecture, comme ça vous pouvez vous occuper pendant cette retraite. Vous avez par exemple aussi la belle épître de saint Jean, première épître de saint Jean, chapitre 4. Lisez aussi. Ça concerne la charité fraternelle. Première épître de saint Jean, chapitre 4. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et la phrase terrible. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et c'est une phrase terrible. Et nous avons reçu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et puis notre Seigneur, bien sûr, dans l'Évangile lui-même, hein, par exemple, saint Matthieu, chapitre 25, verset 40, eh bien, nous dit que tout ce qui est fait à lui-même, tout service rendu au prochain, pardon, il le considère comme fait à lui-même. Alors, comment pratiquer cette charité fraternelle ? Bon, il faut vraiment être bref maintenant. Donc, évitons tout ce qui va contrarier notre Seigneur le prochain. Bon, bien sûr. Je passe vite, hein, tous les jugements téméraires, les médisances, les calomnies, contraires à la justice, à la charité, toutes les antipathies naturelles qui sont consenties. Attention, je dis qui sont consenties, parce que certaines, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi, on ne supporte pas telle personne. C'est comme ça. Mais bon, on va avoir le réflexe, mais on prie pour elle. Mais par contre, quand on parle contraire à la charité fraternelle, c'est l'antipathie. Donc non seulement d'emblée, on n'aime pas cette personne, mais en plus, on y consent. D'abord, elle est moche, et puis je sais pas quoi, et puis bref. Bon, non. Donc antipathie, consentie. Et puis évitons bien sûr toutes les paroles aigres, railleuses, méprisantes, enfin bref, tout ça, malheureusement, souvent on les confesse, donc on sait bien tout ce qui est contre la charité. Donc c'est tout cela qu'il faut évidemment éviter pour garder cette vertu. Pensons aussi à éviter ce qu'on appelle le scandale. Le scandale, c'est porter tout ce qui pourrait porter le prochain au péché. Donc ça peut se manifester de différentes façons, bon, on en reparlera. Mais donc sachons s'abstenir avec soin de tout ce qui, j'allais dire, en soi est indifférent ou même permis, mais qui peut devenir, à cause des circonstances, une occasion de faute pour les autres. Eh bien, ayons cette charité d'éviter de porter les autres au péché. Bon, bien sûr, si soi-même on fait des actes mauvais, bon, on est un mauvais exemple et on porte les autres, c'est clair, au péché. Alors ça, c'est autre chose, c'est encore plus grave. Même, j'allais dire, même pas charité, eh bien, sachons nous abstenir du scandale, tout ce qui pourrait scandaliser les autres. Et puis ensuite, eh bien, aussi, côté positif, eh bien, sachons supporter le prochain malgré ses défauts, sachons prier pour lui, et puis sachons pardonner. Là aussi, comment grandir dans cette charité, si vous voulez, fraternelle, eh bien aussi, on pardonne les injures, on se réconcilie avec nos ennemis. Et là aussi, rappelez-vous cette phrase de notre Seigneur, ça c'est Matthieu chapitre 5, verset 23. Si, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Mais, vous avez bien entendu, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre quelqu'un. Là, c'est tellement évident que notre Seigneur n'en parle pas. Tu vas d'abord te réconcilier. Non! Tu penses que quelqu'un t'en veut, alors tu laisses là ton offrande, tu vas d'abord te réconcilier. Donc, vous voyez, notre Seigneur nous demande même de faire le premier pas. Ah ben non, c'est à elle de s'excuser, c'est à elle de nanana. Non, ben non, notre Seigneur dit, tu vas d'abord te réconcilier. Vous voyez, jusqu'où va cette charité fraternelle? Vous voyez, c'est important. Et après, eh bien, tu reviens prier, et alors ta prière sera agréée par Dieu. Vous voyez, finalement, ce n'est pas si facile que ça. Donc, vous voyez, on peut vraiment monter dans cette charité. Et puis ensuite, bien sûr, pratiquer en imitant le cœur sacré de Jésus. Je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Ça, c'est vraiment encore un échelon supérieur de cette charité fraternelle. Donc charité compatissante, etc. À l'image du cœur de Jésus. Donc prenons aussi ce modèle, le cœur de Jésus. Alors pour terminer, eh bien, vous avez aussi Dom Marmion qui a un très beau passage aussi dans la toujours Christ vit de l'âme. Il a tout un chapitre aussi sur la charité fraternelle. Et importance de cette charité, voilà ce qu'il en dit. Pour notre Seigneur lui-même, ce sera le signe dont il se servira au jour du jugement pour distinguer les élus des réprouvés. C'est lui qui nous le dit. Écoutons-le car il est la parole infaillible. Bon, après, il cite le passage. Venez les bénis de mon Père, prenez possession du royaume. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, etc. Donc vous connaissez ce passage au jugement dernier, pardon. Ainsi, de la bouche même de Jésus, nous savons que la sentence qui décidera de notre sort éternel sera établie sur l'amour que nous aurons eu pour Jésus-Christ dans la personne de nos frères. Quand nous paraîtrons devant le Christ au dernier jour, il ne nous demandera pas si nous avons beaucoup jeûné, si nous avons vécu dans la pénitence, si nous avons passé de nombreuses heures en oraison, non, mais si nous avons aimé et assisté nos frères. Est-ce donc que les autres commandements sont laissés de côté? Non, certes. Mais leur accomplissement n'aura servi à rien si nous n'avons pas observé ce précepte si cher à notre Seigneur, puisque c'est son commandement de nous aimer les uns les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner, faire oraison, etc. C'est évident. Mais si on a fait ça, mais on n'a pas pratiqué la charité, ça ne sert à rien. Comme disait saint Paul, ça ne nous sert à rien. Donc vous voyez, ne négligeons vraiment pas cette vertu. Alors, eh bien, sachons, bien sûr, pratiquer toujours eh bien, ces vertus de foi, d'espérance et de charité. C'est vraiment le grand moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu. Comme dit aussi Dom Marmion, un autre passage, n'oublions pas que si ces vertus nous ont été données sans notre concours, elles ne se maintiennent pourtant ni ne progressent sans nos efforts. Évidemment, nous les avons reçues avec la grâce, mais il faut nos efforts pour qu'elles grandissent. Bien qu'elles soient infuses, les vertus théologales n'échappent pas à cette loi de perfectionnement. Si elles demeurent inutilisées, ce sera au grand détriment de la perfection de notre vie surnaturelle. L'exercice ne les fait pas naître, c'est vrai, autrement elles ne seraient plus infuses. Pour la même raison, c'est Dieu seul qui les augmente lui-même en nous. À la prière, à la réception des sacrements, il faut joindre l'exercice. Demandons donc souvent à notre Père des cieux de les augmenter en nous. Disons-lui, surtout quand nous nous approchons des sacrements, dans l'oraison, dans la tentation, « Ô Seigneur, je crois en vous, mais augmentez ma foi. Vous êtes ma seule espérance, mais affermissez ma confiance. Je vous aime par-dessus toutes choses, mais accroissez votre amour, afin que je ne cherche rien en dehors de votre volonté sainte. »
Du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et chère retraitante, avec la grâce sanctifiante qui déifie, pour ainsi dire, notre nature et la rend capable d'agir surnaturellement, et que nous avons reçue au baptême ou retrouvée par le sacrement de pénitence, eh bien avec cette grâce, le Saint-Esprit dépose en nous des forces, des habitudes qui élèvent au niveau divin les facultés de notre âme. Ce sont les vertus surnaturelles, surtout, comme nous en avons parlé, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, et aussi également les vertus morales infuses qui nous aident dans la lutte contre les obstacles qui s'opposent en nous à la vie divine. Mais le Saint-Esprit aussi nous donne ce qu'on appelle précisément les dons du Saint-Esprit. Alors essayons d'évoquer ces dons. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Que sont les dons du Saint-Esprit ? Bien sûr, nous les avons appris, nous en avons entendu parler, sans doute avant notre confirmation, et il faut bien reconnaître que nous en avons oublié la signification. Alors ces dons, ce sont, comme le nom l'indique, des biens gratuits que l'Esprit-Saint nous distribue avec la grâce sanctifiante et les vertus infuses. En effet, même munie de cette grâce et des vertus, notre âme néanmoins n'est pas rétablie dans cette intégrité originelle où se trouvait Adam avant son péché. Donc, même avec cette grâce, avec ces grâces, nous avons toujours ces conséquences, ces blessures du péché originel, ces blessures d'ignorance, de malice, de concupiscence, de faiblesse. Alors il suit de là, bien que dans l'œuvre capitale de notre sanctification, eh bien nous sommes dans la nécessité d'être constamment et directement aidés par le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Alors l'Esprit-Saint bien va pourvoir à cette aide par ses inspirations. Ces inspirations qui vont perfectionner, qui vont achever notre sainteté. Et pour que ces inspirations soient bien reçues par nous, il met lui-même, le Saint-Esprit, il met lui-même en nos âmes eh bien, des dispositions qui vont nous rendre dociles, qui vont nous rendre souples. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc ces dons ne sont pas, si vous voulez, les inspirations elles-mêmes de l'Esprit-Saint, mais ces dons sont les dispositions qui nous font obéir promptement et aisément à ces inspirations. Vous comprenez pourquoi, souvent, on prend, pour expliquer aux enfants, l'image des voiles. On On compare ces dons du Saint-Esprit à cette voile que nous avons reçue, effectivement. Parce qu'une fois que l'on monte la voile, eh bien le vent peut s'engouffrer dans la voile et ainsi le bateau peut avancer. Eh bien il en est de même, ces dons, si vous voulez, sont des dispositions qui nous permettent ensuite de recevoir et d'agir en fonction des inspirations du Saint-Esprit. Alors par ces dons, l'âme est rendue capable d'être mue et dirigée dans le sens de sa perfection surnaturelle. Elle possède, si vous voulez, comme un instinct divin des choses surnaturelles. Et donc, si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint en vertu de ses dispositions, eh bien l'âme agit en toute sûreté comme il convient à un enfant de Dieu. Voyez donc, évidemment, l'importance de ces dons. Et ensuite, bien sûr, l'importance d'y être docile, de les utiliser, et non pas de laisser ses voiles au fond de la cale. Et ainsi, évidemment, le vent ne pourra pas faire avancer ce bateau de notre âme. Donc essayons maintenant tout simplement de dire un mot de chacun de ces 7 dons que nous avons reçus. Le premier don le plus parfait, est le don de la sagesse. Ce don de la sagesse est un don qui nous incline à suivre promptement l'inspiration du Saint-Esprit pour juger et goûter les choses de Dieu. Goûter les choses de Dieu et donc nous détacher des biens du monde. Donc ce don surnaturel est là pour nous permettre de connaître et d'estimer les choses spirituelles par le goût spirituel que le Saint-Esprit nous en inspire. Ce don de sagesse nous permet de goûter les choses divines. On peut dire que c'est une connaissance savoureuse, intime et profonde des choses de Dieu. Et ce goût des choses célestes et surnaturelles n'est pas ce que l'on appelle la dévotion sensible, mais c'est une spirituelle expérience du divin que l'Esprit Saint veut produire en nous. Ça ne veut pas dire qu'on va en recevoir un bénéfice sensible, non. Mais cela veut dire qu'on va avoir un attrait pour les choses de Dieu. On aime se reposer dans les choses de Dieu. Ainsi, ce don de sagesse nous fait préférer sans hésitation à toutes les joies de la terre la béatitude du service de Dieu. On préfère servir Dieu que goûter les joies de la terre. Et c'est ce don qui fait dire à l'âme ce psaume que nous récitons parfois dans notre bréviaire, « Que vos tabernacles, Seigneur, sont délicieux. Un jour passé dans votre maison vaut mieux que des années qui s'écoulent loin de vous. » C'est tiré du psaume 83. Mais pour éprouver cela, eh bien, il faut que nous écartions soigneusement, précisément, ce qui nous attire vers la délectation illicite des sens. Donc nous détacher des biens de la terre, précisément pour goûter les choses de Dieu. Et cela, c'est le don de sagesse. Nous avons ensuite le don d'intelligence. Ce don d'intelligence nous fait approfondir les vérités de la foi. Il éclaire pour nous les mystères de la foi et en particulier les mystères de la vie de Jésus-Christ. Il nous fait saisir l'harmonie des divines Écritures, nous fait pénétrer le sens des livres spirituels et nous en fait retirer des fruits abondants, don d'intelligence. Donc il fait connaître à l'âme sa propre voie et lui fait comprendre combien ont été sages et miséricordieux les desseins d'en haut, qui l'ont peut-être parfois brisé et transporté là où il ne comptait pas aller. Mais on a une meilleure intelligence de la volonté de Dieu. Donc vraiment utilité de notre vie. Ce don d'intelligence éclaire précisément, nous éclaire, éclaire notre âme pour voir toute cette harmonie que Dieu a bien voulu nous donner. Et ainsi est utile pour notre vie tout simplement. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Voilà le don d'intelligence. Ensuite, nous avons le don de conseil. Le don de conseil perfectionne la prudence en nous faisant juger promptement et sûrement, par une sorte d'intuition surnaturelle, ce qu'il convient de faire, surtout dans les cas difficiles. Et Dieu sait que nous rencontrons souvent des cas difficiles dans notre vie. Eh bien, ce don de conseil, précisément, perfectionne cette prudence qui va nous faire juger ce qu'il faut faire. Donc, ce don de conseil nous fait discerner et choisir ce qui convient le mieux à la gloire de Dieu et à notre salut. Il nous éclaire, il nous conseille. Qu'est-ce qui est le mieux pour d'abord Dieu, la gloire de Dieu, et ensuite pour notre salut. Par ce don de conseil, l'Esprit-Saint répond à cette prière de l'âme, « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Oui, la belle question de saint Paul sur le chemin de Damas, « Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Voilà, et bien le don de conseil répond, nous, à cette question que nous nous posons. Et donc, il va nous garder de toute précipitation, de toute légèreté, mais aussi et surtout de toute présomption. Et il va nous établir dans une parfaite tranquillité d'âme, parce qu'en suivant la conduite du Saint-Esprit, eh bien nous sommes assurés de marcher dans la voie de Dieu et de sa divine providence. Merveilleux don de conseil. Ensuite, nous avons le don de force. En effet, il ne suffit pas toujours de connaître le bon plaisir de Dieu. Parce qu'à cause de notre nature déchue, eh bien, il nous faut aussi souvent la force pour réaliser ce que Dieu réclame de nous. Et c'est l'Esprit-Saint qui, par le don de force, va nous soutenir dans les moments particulièrement difficiles. Ce don va perfectionner la vertu de force dont nous avons parlé. Et ce don va nous donner à la volonté une impulsion et une énergie qui lui permet de faire ou de souffrir de grandes choses, malgré tous les obstacles. Et comme les apôtres au jour de la Pentecôte, eh bien nous serons par l'Esprit-Saint revêtus de la force d'en haut pour accomplir généreusement la volonté divine, pour obéir s'il le faut à Dieu plutôt qu'aux hommes, et pour supporter vaillamment les adversités que nous rencontrerons ou que nous rencontrons à mesure que nous nous rapprochons de Dieu. Effectivement, ce don de force, nous voyons surtout à l'œuvre dans les apôtres le jour de la Pentecôte, eux qui étaient si peureux, eh bien voilà qu'ils n'hésitent plus à affronter la foule et même les chefs des prêtres qui vont les interroger. Ils n'hésitent plus parce qu'ils sont remplis de ce don de force. Et c'est cette force qui fait les martyrs, qui soutient les vierges. Le monde s'étonne de les voir si courageux parce qu'ils s'imaginent qu'ils trouvent la force en eux, alors que précisément ils la puisent en Dieu seul. Voilà le don de force dont nous avons bien besoin aussi dans ce monde d'aujourd'hui, ce monde si corrompu. Nous avons aussi le don de science. Le don de science nous fait voir d'une façon surnaturelle les choses créées, comme seul un enfant de Dieu peut les voir. L'enfant de Dieu voit la création, dans la lumière de l'Esprit-Saint. Elle lui apparaît comme une œuvre de Dieu, où se reflètent ses perfections éternelles. Vous voyez, ces beautés, ces merveilles que nous découvrons dans la nature, eh bien, nous les voyons précisément en Dieu. Et ce don de science nous fait connaître les choses de la création et de nous-mêmes au point de vue de Dieu. On les revoit sous le regard de Dieu. Ce don aussi nous fait connaître notre fin surnaturelle et les moyens d'y parvenir, mais avec des intuitions qui nous gardent des fausses maximes du monde et des suggestions de l'esprit des ténèbres. Oui, il nous donne vraiment la science des choses divines. Nous avons aussi le don de piété que nous donne l'Esprit-Saint. Ce don de piété concourt directement à régler l'attitude que nous devons garder dans nos relations avec Dieu. Donc mélange d'adoration, mélange de respect, de révérence à l'égard de la majesté divine, mais aussi d'amour, de confiance, de tendresse, d'abandon parfait et de sainte liberté en face de celui qui est notre Père des cieux. De même qu'en Dieu, l'amour et la justice ne s'excluent pas, ainsi dans notre attitude d'enfant de Dieu, il y a ce mélange d'indicible révérence qui nous fait nous prosterner devant la souveraine majesté et d'amoureuse tendresse qui nous porte de tout notre élan vers la bonté ineffable du Père Céleste. C'est l'Esprit Saint qui va régler en nous, par ce don de piété, ces deux sentiments, sentiment de révérence et sentiment d'amoureuse tendresse. Oui, ce don de piété est là pour régler cette attitude envers Dieu. Enfin, le dernier don, le don de la crainte de Dieu. Ce don nous incline à suivre promptement l'inspiration de l'Esprit Saint pour éviter avec la crainte la plus filiale tout ce qui pourrait déplaire à Dieu et nous séparer de lui. Vous le savez qu'il y a deux espèces de crainte, il y a la crainte servile et la crainte filiale. La crainte servile nous fait redouter de déplaire à Dieu à cause des châtiments. Oui, si j'offense Dieu, je risque d'aller en enfer. Donc c'est la crainte du serviteur devant son maître. Bien qu'elle soit imparfaite, cette crainte, elle est néanmoins utile à l'âme et nous prépare les voies de la charité. Mais la crainte filiale est celle qui nous fait craindre de déplaire à Dieu à cause de sa bonté. C'est la crainte du fils qui ne veut pas offenser son père. Alors c'est la crainte respectueuse qu'un fils doit avoir pour son père. Et donc, ce don de crainte de Dieu nous fait développer cette crainte filiale que nous devons envers notre Père des cieux. Ainsi, tels sont les dons de l'Esprit divin, du Saint-Esprit. Il perfectionne donc les vertus en nous disposant à agir avec une sûreté surnaturelle qui constitue en nous comme un instinct divin des choses célestes. Par ses dons qu'il met lui-même en nous pour nous rendre dociles, l'Esprit Saint achève de faire s'épanouir notre qualité d'enfant de Dieu. Alors tournons-nous bien sûr vers la très sainte Vierge Marie, vers Notre-Dame, qui n'a cherché qu'une seule chose en cette vie, accomplir en tout la volonté de Dieu. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole. Et pour cela, eh bien, elle a laissé l'Esprit Saint agir dans son âme et elle a suivi ses inspirations avec fidélité. Alors que Notre-Dame nous obtienne cette même fidélité à accomplir la volonté de Dieu et donc à suivre les inspirations du Saint-Esprit qui nous mèneront au port de l'éternel salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.